Bonjour à tous, je suis Eve Castex, associée en fiscalité des entreprises chez PwC Société d'avocats. Bienvenue dans ce webcast qui ouvre un cycle de webcasts dédié aux ETI et private companies qui va s'échelonner au cours des prochains mois. Nous ouvrons le bal aujourd'hui avec le sujet des contrôles fiscaux et de leur impact sur les dirigeants. Nous allons aborder le volet de la responsabilité des dirigeants, responsabilité fiscale, responsabilité pénale. Quelles sont les sanctions encourues? Quel est notre retour d'expérience post-loi fraude de 2018? Et puis, nous partagerons avec vous des bonnes pratiques ainsi que les solutions préventives et correctives qui s'offrent aux contribuables pour éviter ces sanctions. On constate en effet que l'administration se montre exigeante, voire intransigeante, avec les contribuables qui ne jouent pas le jeu, qui contreviennent délibérément au principe d'égalité devant les charges publiques, et qu'elle se montre conciliante, à l'écoute, avec les contribuables dits de bonne foi, qui ont une démarche spontanée pour sécuriser leur position ou régulariser leurs erreurs. Cette nouvelle relation de confiance a pour objectif de rétablir le civisme fiscal et de renforcer la sécurité juridique. Alors, je devais être accompagnée pour cette présentation de Laurent Juan, directeur chez PwC Société d'avocats, spécialisé dans les contrôles et contentieux fiscaux, qui ne peut être malheureusement présent ce jour avec moi en live, mais nous disposons de son enregistrement audio que nous allons diffuser avec les slides. Donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet avec la partie de Laurent.
Merci Eve, bonjour à tous, Laurent Juan. J'ai donc annoncé les mauvaises nouvelles dans cette première partie, puisque parler de l'impact des contrôles fiscaux sur les dirigeants, c'est avant tout évoquer la possibilité pour l'administration fiscale de rechercher, dans certaines situations, leur responsabilité pénale dans le cadre du délit de fraude fiscale. Et donc on va ici évoquer notamment les sanctions qu'ils encourent à ce titre dans le cadre de la gestion fiscale de leur entreprise. Alors, je précise ici, et sans développer ce point, que l'administration fiscale peut engager également la responsabilité solidaire du dirigeant sur la base de l'article 267 du livre des procédures fiscales, qui est une action civile et non pénale pour mettre à sa charge personnelle les dettes fiscales de la société en cas d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, principalement déclaratives. Donc, je ne traiterai pas de cette procédure, faute de temps. Alors, dans quel cas les dirigeants peuvent-ils faire l'objet de poursuites pour fraude fiscale? On va voir qu'en termes de responsabilité pénale fiscale du dirigeant, les choses se sont compliquées car avant la loi fraude du 23 octobre 2018, l'administration fiscale avait le monopole des poursuites, c'était le fameux verrou de Bercy, et donc seule l'administration décidait des dépôts de plainte pour fraude fiscale dans les cas les plus graves, mais seulement après un avis favorable de la CIF, c'est-à-dire la Commission des infractions fiscales, avec une possibilité pour le contribuable d'apporter devant cette commission ses moyens de défense. Il faut savoir que chaque année, environ 950 dossiers de plainte pour fraude fiscale étaient transférés au parquet. Mais depuis l'entrée en vigueur de la loi fraude du 23 octobre 2018, l'administration fiscale a perdu le monopole des poursuites pour fraude fiscale, puisqu'elle a désormais l'obligation de dénoncer et donc de transmettre le dossier du contrôle au procureur de la République, lorsque le dossier se solde par des redressements en droit supérieurs à 100 000 euros et sont assortis de majorations de 100%, opposition à contrôle fiscal, 80%, manœuvre frauduleuse ou de 40%, si dans ce dernier cas, la société s'est déjà vue appliquer dans les 6 dernières années ces majorations. Donc retenons qu'avant la loi fraude, l'administration fiscale sélectionnait les dossiers de poursuite sur la base des éléments constitutifs du délit de fraude fiscale, pour les cas les plus graves, mais sans critères chiffrés prédéfinis. Désormais, il y a un dispositif de transmission automatique au parquet avec des seuils définis par la loi fraude qui marque ici une pénalisation du droit fiscal à laquelle vont être confrontés les dirigeants et dont ils doivent prendre la mesure. Et c'est plus précisément l'application des majorations de 40% qui pose ici problème lorsque la société en a déjà fait l'objet 6 ans auparavant. Donc, en cas de réitération de majoration de 40%, et c'est généralement les manquements délibérés qui sont notifiés, il y a transfert automatique du dossier au parquet, et là il faut s'inquiéter. Alors pourquoi ce dispositif pose problème? Eh bien parce que la tendance observée de certains vérificateurs ces dernières années est qu'ils ont la main lourde sur les majorations de 40%, alors que dans un certain nombre de cas, elles ne sont pas justifiées. Parce que également le seuil de 100 000 euros est très bas et en pratique les contrôles fiscaux qui se soldent par des rappels de droits supérieurs à 100 000 euros assortis de majorations de 40% sont nombreux, puisqu'on cumule ici les différents impôts redressés, TVA, IS, CFE et les années vérifiées. C'est un problème également parce que, on l'a dit, les dossiers de contrôle qui atteignent 100 000 euros sont obligatoirement, pardon, transférés au parquet, sans aucune dérogation possible. Et là, c'est le procureur de la République qui décide lui-même d'engager ou non des poursuites pénales. En outre, le dossier transmis au parquet par l'administration fiscale est à charge puisqu'il ne contient normalement que ses écritures, c'est-à-dire un courrier de l'inspecteur des impôts, la proposition de rectification et la réponse d'observation du contribuable, c'est-à-dire aucune pièce en défense du contribuable. Et même si la société, pardon, signe une transaction avec l'administration fiscale, si elle paye les redressements en échange de quoi les majorations de 40% lui sont remisées, eh bien le dossier sera quand même transmis au parquet. Donc au niveau des chiffres, vous retiendrez qu'en 2019, donc à peine un an après la loi fraude, le nombre de dossiers transmis au parquet a doublé, puisqu'ils sont passés de 956 en 2018 à 1826 dossiers en 2019. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que le parquet a désormais communication de davantage de dossiers de redressement, ce qui augmente le risque de poursuite à l'égard tant des entreprises que des dirigeants, et que les dirigeants risquent de se retrouver devant les tribunaux correctionnels sans avoir un profil particulièrement de fraudeur, tout simplement parce que le seuil de 100 000 euros est très bas et peut concerner des chefs de redressement pas nécessairement frauduleux. Si vous avez un rappel, un redressement sur la base d'un acte anormal de gestion qui sont généralement assortis de 40%, bon, caractère frauduleux n'est pas nécessairement établi et en plus souvent les majorations sont annulées par la suite. Pardon. Donc cette volonté législateur d'apporter une réponse de nature pénale à certains contrôles fiscaux est d'autant plus importante à prendre en compte pour les dirigeants que la jurisprudence a établi depuis 1994 une présomption de responsabilité pénale des dirigeants, que les sanctions pour faute fiscale ont été alourdies par les législations successives et visent principalement le dirigeant, et enfin que les textes ont augmenté au fil du temps les moyens d'investigation de l'administration fiscale pour détecter les manquements et les comportements frauduleux. Donc on va aborder rapidement ces trois points et en premier lieu, on va voir que en matière de poursuite pénale, le dirigeant est en première ligne. Alors, concernant justement la présomption de responsabilité pénale des dirigeants, c'est normalement en fait le contribuable lui-même, débiteur des impôts, qui doit être considéré comme l'auteur principal du délit de fraude fiscale. De ce fait, la responsabilité pénale d'une personne morale est engagée si les faits ont été commis pour son compte par l'un de ses organes ou ses représentants. Mais depuis une jurisprudence du 14 novembre 1994, les dirigeants sont présumés responsables des obligations fiscales de la société qu'ils dirigent. Et en pratique, l'administration fiscale a pour règle de viser dans la plainte, en tout état de cause, le dirigeant de droit, quel que soit son degré présumé de responsabilité dans la réalisation de la fraude. Sachez en plus qu'il est possible, en matière de fraude fiscale, de cumuler la responsabilité des personnes physiques, qui doit toujours être recherchée en priorité, et des personnes morales pour la même infraction. Donc on va le voir, ça peut coûter cher. Enfin, si le dirigeant ne peut pas opposer l'incompétence ou des erreurs de son expert comptable, en revanche, en cas de poursuite pour fraude fiscale, le dirigeant pourra opposer l'exception de délégation de pouvoir. C'est tout l'intérêt de la délégation de pouvoir. Le chef d'entreprise qui n'a pas pris part personnellement à la réalisation de l'infraction peut donc s'exonérer de sa responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à l'un de ses salariés, pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. Donc il faut nécessairement un écrit et une acceptation expresse du délégataire. Mais là, la responsabilité est transférée sur le délégataire. Eh oui. Donc, lorsque le dirigeant se trouve poursuivi devant le juge pénal pour faute fiscale, ses chances d'échapper à une condamnation pénale sont minimes compte tenu de sa présomption de responsabilité. On voit, alors une fois pardon, que l'on a rappelé la présomption de responsabilité qui pèse sur le dirigeant en la matière, quelles sont les sanctions applicables au dirigeant? Eh bien, on va voir que de lourdes sanctions peuvent impacter les dirigeants. En effet, les sanctions pour fraude fiscale ont été alourdies par la loi fraude et visent principalement le dirigeant, outre les peines accessoires et complémentaires qui le visent déjà. Je rappelle au préalable que le délit général de fraude fiscale est très large puisqu'il sanctionne le fait de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt. Donc, quelles sont les peines principales de l'article 1741 du CGI? Pour les personnes physiques, donc pour les dirigeants, 5 ans d'emprisonnement avec une amende pénale de 500 000 euros, qui peut être portée au double du produit de l'infraction. Donc déjà, ça pique. Et en cas de fraude fiscale aggravée, c'est pire. 7 ans d'emprisonnement avec une amende de 3 millions d'euros, qui peut aussi être portée au double du produit tiré de l'infraction. Pour les personnes morales, alors là, ça fait peur, puisque l'article 131-38 du Code pénal prévoit que l'amende est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, donc une amende entre 2,5 millions et 15 millions d'euros d'amende en cas de fraude fiscale aggravée, pouvant être portée au décuple du montant des droits lésés, c'est-à-dire 10 fois le montant des redressements. À ça s'ajoutent les peines complémentaires, notamment publication automatique des jugements de condamnation, et pour le dirigeant, une interdiction d'exercer définitive ou temporaire, privation des droits civiques. Bref, ça fait beaucoup. Et la peine qui fait aussi très mal pour le dirigeant, c'est la condamnation solidaire au... C'est la solidarité fiscale de l'article 1745 du Code général des impôts. Donc, lorsque l'on cumule les sanctions pénales et fiscales, vous conviendrez que ça fait beaucoup. Et il faut savoir que le Conseil constitutionnel, suivi par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, a atténué le cumul possible des sanctions fiscales et pénales dans la mesure où le montant global des amendes fiscales et pénales ne peut pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Alors, compte tenu du montant de l'amende pénale pour une personne morale, 10 fois le montant des droits éludés, ce plafond est très théorique. Cette même chambre criminelle limite également le cumul des sanctions pénales et fiscales en subordonnant l'application des sanctions pénales à la gravité des faits, qui est elle-même fonction du montant des droits fraudés et de la nature des manquements reprochés, en lien souvent avec les circonstances aggravantes. Mais tout cela n'est pas très clair. Le cumul des sanctions fiscales et pénales fait toujours débat. Et la Cour de cassation a transmis le 2 octobre 2020 deux questions préjudicielles sur ce point à la CJCE, à la CJUE, pardon. Alors, sur les moyens d'investigation importants pour déceler les manquements fiscaux. Alors, les manquements caractérisant le délit de fraude fiscale étant le plus souvent révélés par des procédures de contrôle fiscal, les textes ont augmenté au fil du temps les moyens d'investigation de l'administration fiscale pour déceler les comportements frauduleux. Alors, l'administration fiscale dispose en effet de nombreuses sources d'informations pour détecter les manquements, hein, l'échange automatique de renseignements sur les comptes bancaires, obligations déclaratives en matière de prix de transfert, échange d'informations avec le parquet, DAXIS, les aviseurs fiscaux, hein, qui sont des délateurs payés par l'administration fiscale. Et surtout, l'administration fiscale dispose également de moyens d'investigation importants, notamment la police fiscale, les cellules de recherche de data mining, l'assistance administrative internationale, le droit de communication et surtout les perquisitions fiscales de l'article L16B du LPF qui constituent, je dirais, l'arme la plus efficace pour l'administration fiscale. Donc ces sources d'informations et le résultat des investigations, pardon, de l'administration fiscale vont lui permettre, on l'a vu, de déclencher des contrôles fiscaux et de notifier des redressements qui peuvent donc très rapidement dépasser le seuil de 100 000 euros, déclenchant une transmission automatique au parquet s'ils sont assortis de majorations qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors, quelle stratégie de défense le dirigeant doit-il alors adopter? Alors, deux stades. Au stade des opérations de contrôle, et particulièrement en cas de risque de réitération de majoration de 40%, donc là, il faut contester les chefs de redressement. Hein. C'est une palissade de dire ça, mais c'est du bon sens. En tout état de cause, il faut éviter de nouvelles majorations de 40%, notamment les majorations pour manquement délibéré avant le stade de la mise en recouvrement. Sinon, transfert du dossier au parquet. Bah, donc là, il faut autant que faire se peut éviter les majorations, quitte à solliciter auprès de l'inspecteur des impôts un article L62 du LPF, c'est-à-dire une procédure de régularisation au cours du contrôle. On demande à l'inspecteur s'il accepterait, en échange, si on accepte le chef de redressement, s'il accepterait de limiter la sanction à l'intérêt de retard minoré. Donc, comme le L62 normalement, il ne peut pas être appliqué s'il entend mettre en application les manquements délibérés, et bien là, on évite de fixer. S'il accepte la régularisation en cours de contrôle, c'est qu'il fait preuve de mansuétude et que vous éviterez les majorations de 40%. Bon, en tout état de cause, évitez les majorations de 40%. Alors, en cas de transmission du dossier par l'administration au parquet, et là, le procureur décidera de donner suite ou non aux poursuites. Donc là, il faut immédiatement constituer une équipe de défense, dans tous les cas. Avocat fiscaliste plus avocat pénaliste. Après, c'est du cas par cas. Hein. Si la défense du dossier, pardon, est solide au plan fiscal, donc là, il faut saisir le juge de l'impôt pour contester les redressements, puisque vous ne pouvez pas être condamné pénalement si vous avez obtenu la décharge totale des redressements notifiés. Donc là, la difficulté, c'est la temporalité des procédures entre le juge pénal et le juge de l'impôt, puisque le juge pénal, généralement, statue plus rapidement. Donc ça veut dire que vous pouvez être condamné au plan pénal, alors que vous obtiendrez ultérieurement, possiblement en tout cas, une relaxe, un dégrèvement, pardon, des redressements qui ont été notifiés. Donc dans ce cas-là, il faut solliciter. Alors, il y a eu une ouverture par la chambre criminelle de la Cour de cassation. C'est désormais possible, vous pouvez solliciter du juge pénal le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'impôt. Mais pour cela, il y a certaines conditions. Donc il faut avoir au préalable obtenu une première décision du juge de l'impôt qui vous est favorable. Donc c'est pas gagné, vraiment pas gagné. C'est même compliqué. Alors si la défense du dossier est compromise au plan fiscal, mais vous avez une délégation de pouvoir, donc là, il faut l'opposer. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème est transféré sur des délégataires. Et si enfin la défense du dossier est difficile au plan fiscal et au plan pénal, hein, pas de délégation de pouvoir, pas moyen de contester le redressement, là, il faut privilégier les voies alternatives au procès pénal que sont la CRPC pour la personne physique, pour le dirigeant, ou la CJIP, la Convention judiciaire d'intérêt public, étant ici précisé que les voies alternatives au procès pénal, pardon, elles vous permettent d'éviter un procès long et anxiogène pour le dirigeant. Donc la CRPC, le plaidé coupable, vous le sollicitez auprès du procureur qui va vous proposer des peines qui sont généralement moins lourdes, mais qui impliquent une reconnaissance de culpabilité, avec donc une inscription du délit au casier judiciaire. Puis le juge pénal va homologuer la CRPC. Ou bien, pour la personne morale, vous sollicitez donc la conclusion d'une CJIP, hein, convention judiciaire d'intérêt public, où le procureur fixe ici une amende pénale qui ne peut pas excéder 30% du chiffre d'affaires de la société. Et là, elle se fait sans reconnaissance de culpabilité, donc sans inscription du délit au casier judiciaire de la personne morale, mais attention, elle ne protège pas le dirigeant de poursuite. Donc il faut vraisemblablement demander les deux, et pour autant qu'elle vous soit accordée. Donc voilà pour un exposé rapide de l'impact possible et non théorique des contrôles fiscaux sur les dirigeants au plan pénal fiscal. Donc je vais terminer cette première partie par une note positive en évoquant l'article 228.1. Dernier alinéa du LPF qui prévoit que le dispositif de la dénonciation obligatoire au parquet ne s'applique pas aux contribuables qui déposent spontanément une ou plusieurs déclarations rectifiant sa situation fiscale antérieure. Donc j'en profite ici pour céder la parole à Eve Castex, puisque pour éviter de basculer d'un simple dossier de redressement vers une procédure judiciaire longue et anxiogène pour les dirigeants, plusieurs voies s'offrent à eux, pardon, et Eve donc va maintenant vous les présenter. Merci pour votre écoute.
Merci beaucoup, Laurent, pour ce panorama complet de la responsabilité, des sanctions et puis ces quelques éléments de stratégie de défense. Donc moi, je suis, je l'espère, porteuse d'un message d'espoir, donc positif. Je vais aborder le sujet des mesures préventives et des mesures correctives qui s'offrent aux contribuables. Avant toute chose, je vais aborder le sujet du prérequis. Le prérequis, donc avant de rentrer dans le détail des mesures préventives ou correctives, c'est peut-être le béaba, mais on a souhaité quand même vous le rappeler. Le prérequis, il est double. Pour se prémunir contre l'application des pénalités de mauvaise foi et préparer un contrôle fiscal et son éventuelle pénalisation pour décrisper, je dirais, un contrôle fiscal, il faut d'abord faire un état des lieux. Faire un état des lieux des positions fiscales considérées comme à risque. Donc, il faut anticiper le plus possible les contrôles fiscaux et bien penser à documenter en amont ces positions fiscales. Pourquoi ? Parce qu'en documentant en amont et non pas juste au moment de l'avis de vérification, on peut constituer une documentation solide et limiter ainsi l'application des pénalités puisqu'on pourra justifier de sa position. Ensuite, il est primordial de former, de sensibiliser les équipes justement à la loi fraude qu'a présenté Laurent. C'est important de distiller ce savoir et que les conséquences de la loi fraude ne soient pas connues que d'un membre de l'équipe. Il faut aussi faire un état des lieux, je dirais, du schéma de délégation des pouvoirs pour savoir qui est responsable et éventuellement qui ne l'est pas en vertu des exonérations dont a parlé Laurent. Et puis, revoir les procédures d'urgence pour se tenir prêt en cas de, notamment, pire des cas, en cas de perquisition pour savoir comment réagir, quels sont les bons réflexes à avoir. Donc, le deuxième prérequis, c'est aussi élémentaire, mais c'est avoir ses obligations documentaires à disposition lorsque l'inspecteur vient. L'inspecteur peut se braquer, la relation peut être crispée si on n'est pas capable de donner à l'inspecteur, à la première visite, sa documentation. Alors, parmi les obligations documentaires, vous le savez, il y a le fichier des écritures comptables, qu'il faut remettre à l'inspecteur dès la première visite pour chacun des exercices vérifiés. Donc, si on peut éviter de les donner au compte-gouttes, donner les trois, s'il y a trois exercices vérifiés, évidemment, ça fait bon effet. Vérifier leur conformité et puis un cadrage avec l'alias fiscal. On a aussi donc la piste d'audit fiable, donc TVA. Donc, ça, c'est une documentation à bâtir qui est quand même qui peut être assez conséquente. Donc, elle est demandée de plus en plus souvent dans le cadre des contrôles fiscaux. On l'a constaté. Donc, il faut se tenir prêt. La documentation prix transfert, bon, ça fait partie des obligations qui sont quand même, qui commencent à dater, mais on s'aperçoit que souvent les clients ne sont pas forcément prêts ou alors ils ont un bout du master file, ils n'ont pas le local file, les benchmarks n'ont pas été actualisés, donc il faut que tout ça soit prêt. On a aussi la documentation simplifiée, donc à déposer dans les 6 mois du dépôt de l'alias, donc c'est pas très compliqué, ça fait aussi bon effet. Et puis, on vous a indiqué la documentation sur donc, ce que l'on appelle la patent box, donc le régime préférentiel des brevets, inventions brevetables et logiciels, donc qui est une obligation documentaire nouvelle, en tout cas qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Donc aujourd'hui, on a assez peu de recul sur son contenu, bien qu'il y ait quand même des guidelines de l'administration, mais en tout cas, il faut la tenir à disposition en cas de contrôle. Donc, c'est vraiment important d'avoir sa documentation. Alors maintenant, je vais rentrer dans le détail des mesures préventives et puis ensuite des mesures correctives. Alors, l'essentiel de ces mesures a été prévu par la loi ESSOC de 2018, donc une loi pour la société de confiance, donc ça veut dire une relation de confiance avec l'administration, on améliore les relations, il y a plus de coopération. Donc l'administration a proposé tout un tas de mesures, parmi lesquelles on a l'accompagnement personnalisé auprès des PME. Alors cette présentation va être aussi l'occasion pour nous de vous donner quelques chiffres qui sont issus du bilan qui a été publié, bilan sur la relation de confiance publié par le ministère des Finances et de l'Économie au mois de mars dernier. Donc c'est intéressant pour vous d'avoir quelques retours sur les chiffres. Donc l'accompagnement personnalisé des PME, son objectif c'est d'apporter de la sécurité juridique aux PME et de les accompagner dans leur projet ou dans leur activité au quotidien. Donc, c'est PME, la cible, et TPE aussi, des sociétés qui n'ont pas fait l'objet de pénalités pour manquement intentionnel au cours des 3 dernières années. Ça, c'est primordial. On verra au long de la présentation que c'est une condition qu'on retrouve de façon systématique. Il faut être de bonne foi. Il faut être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. Le champ d'application, c'est clairement tous les impôts professionnels, hein, l'IS, les impôts locaux, la TVA. Alors, on s'aperçoit que l'IS, finalement, ça représente à peu près 3/4 des demandes, hein, dans le cadre de l'accompagnement. Ça va être la déductibilité des charges, est-ce que je bénéficie de crédit d'impôt, de réduction d'impôt. Il peut y avoir, c'est plus limité, mais il y a eu un certain nombre de questions de fiscalité internationale aussi posées. Est-ce que je dois appliquer une retenue à la source? Pouvez-vous alors peut-être pas valider, mais me confirmer ce point sur ma politique de prix transfert, comment dois-je lire une convention fiscale, et puis des questions d'ordre général, alors du type un accompagnement pour déposer un rescrit, donc l'administration peut aider dans ce type de démarche. Alors concrètement, comment ça se passe? Ça se passe au niveau du SIE compétent de l'entreprise qui va désigner un interlocuteur unique. Il y a des relais implantés dans chaque région qui sont dédiés à ce service et ces interlocuteurs vont rendre leur avis, leur position sous forme de rescrit. Donc le rescrit, c'est une prise de position formelle qui va être opposable à l'administration et que l'on pourra produire dans le cadre d'un contrôle fiscal. Donc ça permet de donner une sécurité. Et ce que l'on constate aussi, c'est que finalement, cet accompagnement vise plutôt des demandes ponctuelles qu'une relation suivie. Alors, le bilan, je dirais qu'il est sans doute mitigé au regard du nombre de TPE et de PME qui existent sur notre territoire, puisqu'on a en 2 ans eu 400 PME qui ont demandé cet accompagnement personnalisé. Et puis 177 réponses et 153 rescrits produits. Donc voilà, un succès relatif. Autre mesure préventive, on a le partenariat fiscal. Donc celui-ci, il a fait un peu plus de bruit. Il est, je dirais, plus ambitieux dans la mesure où il s'inscrit dans la durée et il permet de résoudre des problématiques fiscales dites complexes ou à risque dans un contexte réglementaire assez complexe. Donc la cible, ce sont là les ETI et les grandes entreprises qui aussi ne doivent pas avoir fait l'objet de pénalités pour manquement intentionnel au cours des 3 dernières années. Le champ est le même, hein, les impôts professionnels, principalement des questions autour de l'impôt sur les sociétés. Alors, pour exemple, on a mis quelques sujets qui avaient été abordés dans le cadre du partenariat fiscal qu'on a pu relever. Le régime d'imposition des brevets qui peut prêter interprétation, surtout qu'il a changé, donc il y a un certain nombre de modifications à digérer. Les restructurations au sein d'un groupe, la validation d'une politique de prix transfert, des sujets de fiscalité internationale aussi. Les impôts locaux et la TVA. Alors la TVA, par exemple, on peut valider une piste d'audit fiable. Ça a été vu aussi. Alors le partenariat, en fait, il y a un service dédié auprès de la DGE. Tout se passe au niveau de la DGE. Il y a un SPE, un service partenaire des entreprises, avec une douzaine de personnes, donc des ressources quand même assez limitées. Et si vous faites appel au partenariat, on va désigner un interlocuteur unique. Vous aurez un seul interlocuteur avec lequel vous allez discuter et le partenariat va se concrétiser par la conclusion d'un protocole d'accord qui peut être annuel ou qui peut être reconduit. Et c'est ce protocole qui va finalement fixer le cadre, le fonctionnement du partenariat. Alors, le partenariat, il repose sur une relation équilibrée entre l'inspecteur, enfin l'inspecteur, c'est quasiment un inspecteur, et le contribuable. C'est-à-dire qu'on attend de l'interlocuteur unique, donc du coup de la disponibilité, de l'écoute, de la bienveillance et de la réactivité, et du côté du contribuable, de la transparence, de la bonne foi, et puis une certaine, je dirais, générosité dans le partage des informations. Alors après, donc l'interlocuteur unique s'engage à rendre des réponses avant les échéances déclaratives, hein, puisqu'on est dans un cadre de sécurisation juridique. Et puis, ils vont délivrer leur position via des rescrits. Alors le bilan publié par le ministère, donc on sait qu'aujourd'hui, il y a environ 39 groupes partenaires. Ça veut dire environ 2400 sociétés ciblées par le partenariat. Il y a 81 rescrits qui ont été délivrés. Et aujourd'hui, on a peu de recul de la part des contribuables sur ce partenariat, sur la façon dont il est perçu. Mais le ministère a prévu de faire une enquête de satisfaction du SPE dans les prochains mois. Autre mesure préventive, alors ça c'est une nouveauté, de l'exercice 2021 qui a été discutée depuis longtemps dans le cadre de la loi ESSOC. Alors ça date de donc le décret date du mois de janvier dernier. Le champ d'application est relativement large, hein. On vise tout type de société, toute activité. Les exercices visés sont les exercices à compter du 31 décembre 2020. Et l'examen de conformité fiscale va porter sur un seul exercice. Alors, si on pouvait définir l'examen de conformité fiscale, donc ce n'est pas ce que l'on appelle une revue d'ensemble fiscal, une revue du résultat fiscal. C'est une certification, c'est-à-dire qu'on va faire appel à un prestataire tiers, donc un expert du chiffre, qui va certifier un chemin d'audit. Chemin d'audit qui comporte 10 points qui sont prédéfinis par l'administration. Donc, on ne peut pas déroger à ces points. La validation doit couvrir ces 10 points. Donc, je vais vous les lister. Hein. Il y a le FEC, donc sa conformité, sa qualité comptable. Si applicable, hein, la détention d'un certificat de l'éditeur de logiciel ou du système de caisse. Le respect des règles de conservation des documents. La validation du respect des règles de régime d'imposition, IS et TVA, les règles de détermination des amortissements, des provisions, des charges à payer, la déductibilité fiscale des charges exceptionnelles s'il y en a, et puis le respect des règles d'exigibilité de la TVA. Donc voilà les 10 points qui ont été définis par l'administration. Quel est l'objectif de ce dispositif et comment l'appliquer en pratique? Donc, il suppose un contrat, une relation contractuelle avec un prestataire tiers. L'option pour l'examen de conformité fiscale va se matérialiser dans l'alias fiscal. On va cocher une case à cet effet. À l'issue de la mission de certification, le tiers va émettre un compte-rendu de mission dans lequel il va valider ou ne pas valider les 10 points. Si les points sont validés, ça va apporter une sécurité juridique au contribuable, on va en parler, ou s'ils ne sont pas validés, le prestataire va émettre des recommandations qui vont certainement nécessiter de corriger et de déposer des liasses rectificatives. Donc, l'objectif est de sécuriser les positions, de réduire les risques fiscaux, d'inciter à des déclarations rectificatives. Et puis, il ne faut pas trop se voiler la face, hein, c'est pour alléger les contrôles fiscaux. Et finalement, l'administration fiscale va reporter une partie de son travail, de sa charge de travail sur des prestataires tiers. Pourquoi? Parce qu'elle ne dispose pas de beaucoup de moyens. Donc, du coup, elle préfère mieux cibler la durée et la fréquence des contrôles fiscaux et garder justement ses moyens pour lutter contre la fraude, hein, qui est l'objectif premier. Alors, d'un point de vue des contribuables, à quel est l'intérêt d'avoir recours à l'examen de conformité fiscale ? C'est l'absence de pénalité et d'intérêt dans l'hypothèse où l'administration viendrait contrôler des points qui ont été validés. Donc, dans ce cas-là, absence de pénalité et d'intérêt de retard. En revanche, il faut que le contribuable soit de bonne foi et qu'il soit bien conformé aux recommandations du prestataire. Si jamais l'inspecteur n'était pas d'accord et avait un point de vue divergent sur les points validés, et si les voies de recours ont été utilisées et que les rappels persistent, dans ce cas-là, le contribuable a la possibilité de demander le remboursement des honoraires payés au tiers. Donc voilà, l'examen de conformité fiscale, c'est la nouveauté de cette année. Vous avez dû voir un certain nombre d'articles sur le sujet. C'est pas mal commenté, donc on pense que cela aura certainement pas mal de succès. Les rescrits. Donc, les rescrits, c'est la dernière mesure préventive que j'ai voulu évoquer avec vous. Les rescrits, donc, ça date pas de la loi ESSOC, hein. Il y a toujours eu la possibilité de demander des rescrits. Il y a des rescrits de portée générale. On peut soumettre sa situation à l'administration fiscale pour avoir un confort. Il y a les rescrits spécifiques type établissement stable, abus de droit, crédit d'impôt recherche, mécénat, voilà, très spécifique. Il y a toujours eu des rescrits. Donc là, l'administration s'engage à les traiter plus rapidement. Elle s'est engagée à les publier dans le BOFIP, donc maintenant ils sont disponibles, on peut les revoir, ils ont été anonymisés. La nouveauté aussi dont je voulais vous faire part, c'est la création d'un guichet qui est dédié aux problématiques de fiscalité internationale, où l'administration va pouvoir finalement se prononcer sur l'application de retenue à la source, sur la rémunération qui est due dans le cadre de prix de transfert, ou quelle est la base taxable pour un établissement stable, avec une possibilité de prendre contact avec les autorités fiscales étrangères. Donc ça, c'est un vrai plus pour les entreprises qui ont une activité à l'international. Et puis après, ce que l'on a constaté, c'est que l'administration souhaite aussi prendre position sur des sujets de place, c'est-à-dire des sujets qui remontent régulièrement, qui sont communs à un secteur économique ou à des sociétés. Donc, le dernier en date, c'était sur les charges financières. Il y a eu une fiche pratique publiée sur le site InfoGouv. Voilà, donc les rescrits, donc vous avez toujours cette possibilité-là aussi en cas de doute. Le bilan, donc depuis ces deux dernières années, donc on constate qu'il y a une hausse des rescrits, mais c'est pas non plus une hausse qui est spectaculaire. Il y a en revanche un raccourcissement du délai moyen de traitement des rescrits que l'on a constaté, que ce soit au niveau des services territoriaux ou centraux. Et puis, on vous a indiqué quelques exemples de rescrits publiés, déductibilité des charges financières versées à une société belge bénéficiant du régime des intérêts notionnels, le traitement des dividendes post-Brexit, voilà, ce type de sujet. J'aborde maintenant la dernière partie qui est celle des mesures correctives. Là, donc, on est dans une situation où on a des erreurs, on constate des erreurs et on souhaite les corriger. Alors, on peut être soit en amont du contrôle fiscal ou aussi, il y a quelques possibilités, en cours de contrôle. Donc, parmi les mesures correctives, la mesure phare, je dirais que c'est la mise en conformité. On a la possibilité d'avoir recours au SMEC, le service de mise en conformité. C'est un guichet qui est dédié au sein de la DGE. Alors, auparavant, il était ouvert principalement donc, aux repreneurs dans le cadre d'acquisitions qui découvraient des anomalies, mais aussi à des problématiques de fiscalité internationale, par exemple un établissement stable non déclaré, ou de la même façon une structure à l'étranger non déclarée, des problématiques liées à la fiscalité de dirigeants, des opérations susceptible de pénalité de 80% parce que occulte ou parce que voilà, il y a un sujet de fraude derrière. Ce service de mise en conformité a été récemment étendu à d'autres sujets, d'autres problématiques. Donc, notamment, je vous ai noté là toutes les infractions commises par les grandes entreprises présentant un caractère intentionnel. Donc, on élargit le champ. Et puis aussi la possibilité de se mettre en conformité et de faire des demandes lorsqu'on a une problématique quant au chiffrage des corrections à effectuer et aux périodes à couvrir. Donc, le champ est étendu. Ça, c'est vraiment un plus, je dirais. Il est possible d'avoir accès à ce guichet en cas de demande spontanée. Donc, on se situe toujours en amont d'un contrôle fiscal avant tout avis de vérification. Et pour demander le service du SMEC, donc il faut faire une demande spontanée, payer les droits, et puis il faut une demande plutôt formelle, c'est-à-dire qu'on va matérialiser la demande de conformité fiscale, on va produire un écrit dans lequel on va exprimer la problématique rencontrée, on va devoir produire des déclarations rectificatives, des justificatifs qui vont permettre de justifier les calculs hein, pour l'administration, et aussi on va devoir produire une attestation démontrant la sincérité du dossier. Donc l'intérêt de cette mise en conformité, c'est qu'après on va pouvoir discuter avec le service afin de moduler les pénalités. Donc, ça, on appelle ça une modulation par voie transactionnelle, et vous voyez dans le tableau, donc du coup les pénalités de 80, 40 ou 10% vont tomber à 30, 15 et 0% respectivement. Donc, on a une vraie, je dirais, économie dans la remise. Et aussi, les intérêts de retard pourront être réduits de 40 ou 50%. Donc, c'est plutôt intéressant. Et on voit que ces majorations-là, donc, vu qu'on est dans un cadre donc, hors contrôle fiscal, ne seront pas retenues pour la condition de réitération qui est regardée pour la transmission au parquet. Ensuite, je vais accélérer, je vois que le timing... Alors, principe de réduction des intérêts de retard. Donc là, on est sur le droit à l'erreur généralisée. On a en possibilité de réduire les intérêts de retard de moitié en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative dans le délai de reprise, toujours accompagné du paiement des droits. Et cette solution, elle est offerte aux contribuables de bonne foi. Exclusivement. On a aussi des dispositions spéciales prévues par la loi ESSOC pour corriger certaines déclarations spéciales en franchise de pénalité avec un timing acceptable, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, celle au titre de laquelle la déclaration est due. Par exemple, le tableau des provisions, des frais généraux, certains états spécifiques pour l'intégration fiscale, le registre 54-7-IS, etc. En cours et à l'issue du contrôle fiscal, on a la possibilité de régulariser et d'avoir recours à la procédure dite L62. Alors, Laurent l'a évoqué tout à l'heure. Cette procédure, elle permet d'avoir une réduction des intérêts de retard de 30%. Elle a été élargie. Donc, avant, c'était que pour les vérifications de comptabilité. Maintenant, c'est aussi possible pour les contrôles sur pièces et les examens de situation fiscale personnelle. Donc, on a élargi le champ. Il faut remplir un certain nombre de conditions pour en bénéficier. Et puis, vous avez la possibilité de régulariser notamment vos DAS2. Avant, c'était hors contrôle fiscal. Maintenant aussi, c'est possible dans le cadre d'un contrôle. Et de demander une exonération de retenue à la source. C'est le L62A du LPF en cas de rapatriement des revenus réputés distribués. Vous avez un contrôle fiscal pré-transfert. Il y a un transfert de bénéfices. Ça qualifie de revenus réputés distribués. Si vous rapatriez les sommes, on peut faire tomber la retenue à la source. Dernier point, on passe là à la garantie fiscale. Donc la garantie fiscale, elle s'applique au contrôle engagé depuis le 1er janvier 2019. C'est une validation qui est donnée au contribuable sur un point qui a été vérifié mais qui n'a pas été contrôlé, qui n'a pas donné lieu à rectification plus exactement. Et cette garantie, elle est octroyée aux contribuables de bonne foi, donc toujours pareil, pas de manquement délibéré, pas de défaillance déclarative. En pratique, ce que l'on a constaté, c'est que les inspecteurs accordaient effectivement une garantie dans le cadre des propositions de rectification sur un ou deux points, mais qui ont une portée plutôt limitée. Donc surtout, un conseil, c'est ne pas hésiter à demander aux inspecteurs de prendre position dans le cadre de vos contrôles fiscaux. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Donc, en guise de conclusion, je dirais que vous avez dû le constater, hein, les sanctions à l'égard des dirigeants ont été renforcées. Il y a un risque de pénalisation du contrôle fiscal qui s'est accru, c'est indéniable. Laurent vous en a parlé, hein, c'était très, très révélateur. Le contribuable, en revanche, aujourd'hui dispose d'un nombre de mesures importantes pour sécuriser ses positions, pour corriger certaines erreurs afin de ne pas encourir des pénalités. Il est donc primordial, je répète encore une fois, de faire un état des lieux pour se préparer au mieux au contrôle, pour anticiper, voire régulariser en cas d'erreur décelée. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour les traiter. Donc, si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets ou aborder des questions spécifiques, sachez que Laurent et moi sommes à votre disposition le mardi 22 juin pour une journée de speed meeting dédiée. Donc, vous recevrez le lien d'inscription par email et vous pourrez choisir un créneau. Nous vous invitons aussi à compléter quelques minutes, s'il vous plaît, c'est important pour nous, le questionnaire de satisfaction qui apparaît à l'écran. Ce webcast sera en principe mis en ligne et relayé sur les réseaux sociaux. Et nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une bonne soirée. Merci. Au revoir.